Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Comment accroître la résilience des communautés face aux effets du changement climatique à Mopti? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Les fortes pluies, les inondations, la rareté de certaines espèces aquatiques, la réduction du rendement agricole sont entre autres effets du changement climatique connus à Mopti. Cette situation affecte gravement les moyens de subsistance de la population à Mopti. Pour y faire face, des programmes d'appui à l'adaptation au changement climatique ont été mis en place dans la région. Quels sont les améliorations constatées, les normes environnementales sont-elles respectées à Mopti? Nous parlons de ce sujet aujourd'hui avec Abdoulkarim Maïga. Il est membre de l'Association malienne de défense des droits de l'homme. Il milite aussi au niveau du Conseil régional de la société civile à Mopti. Bonsoir, monsieur Abdoulaye.
Bonsoir.
Notre second invité est Khadija Kané. Elle travaille à la direction régionale de l'hydraulique de Mopti. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Notre troisième invité est Sékou Cissé. Il est membre de l'association de gestion des catastrophes et des inondations à Sofara. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Je suis Mariam Koulibaly. Bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, qu'est-ce que le changement climatique, madame Khadija Kané? Qu'est-ce que le changement climatique selon vous?
Selon mon entendement, comme on le dit bien, le changement climatique, je peux le définir comme un changement de température, et le changement de nos conditions de vie à l'heure actuelle. Là. Et quand je parle de changement de température, je fais référence au réchauffement climatique. On constate ces derniers moments qu'il y a une forte chaleur, la température est trop montée. Donc, tout ceci nous permet de définir un peu le changement climatique. Alors.
Est-ce que le phénomène a un impact ici à Mopti?
Évidemment, évidemment, on constate couramment ces phénomènes-là ici. Et notamment pendant la période de chaleur, la région de Mopti était parmi les régions les plus chaudes sur le territoire malien. Les températures sont allées de 42 jusqu'à 47 degrés. Et pendant la période hivernale aussi, qui est cette période-là, on constate aussi une montée excessive du niveau d'eau dans les cours d'eau. Et souvent aussi des pluies abondantes par localité aussi, qui causent des effets d'inondation. Donc tout ceci, c'est des effets du changement climatique. Et la forte chaleur qui est due aussi à la montée des températures, tout ceci sont des effets des changements climatiques qu'on constate ici dans la région.
Je vous rappelle que nous sommes dans un décor un peu particulier. Nous sommes un peu dans les rues de la région de Mopti pour pouvoir animer cette émission pour plus de proximité avec la population. Alors, Monsieur Abdoulkarim Maïga, en plus de ce que Madame Kané vient de dire, quels sont les effets du changement climatique que vous aussi vous avez eu à constater étant membre d'une organisation de la société civile?
Ok, je vous remercie beaucoup. Donc les effets, je pense que ça saute à l'œil. On a vu dernièrement la période de sèche qui est passée là. On a vu des augmentations de température. On a vu une chaleur qu'on avait rarement vue. Les personnes âgées nous ont dit qu'ils ont rarement, depuis leur existence, ils ont rarement vu que les températures atteignent ces degrés-là. Donc ça, c'est vraiment un effet que tout le monde a vécu ici. En même temps, cette année aussi, on a vu des quantités de pluie jamais enregistrées. Donc, il y a cela. En plus, ajouté à cela aussi, on voit la rareté de certains produits. Voilà, des espèces, que ce soit animal, végétal, aussi de certains produits qui, de nos jours, sont devenus très rares ou bien qui n'existent même plus. Donc, tout cela est dû au changement et aussi les effets néfastes de l'action de l'homme sur la nature.
Alors, monsieur Cissé, vous êtes à Sofara et vous militez dans une association qui vient en aide aux sinistrés et aux populations qui ont été victimes d'inondations et autres catastrophes naturelles à Mopti. Est-ce que les effets du changement climatique sont aussi une réalité dans votre localité?
Merci, madame Koulibaly, Mariam Koulibaly.
Effectivement, les effets du changement climatique se font ressentir dans notre localité, surtout à Sofara. Dans la première semaine de ce mois de septembre, nous avons enregistré plus de 213 mm. Donc, c'est ce qui a fait quand même une grande inondation. D'abord, pour une première fois dans l'histoire, c'est que je chasse. Et puis, après, d'après ce que les aînés nous ont dit, une telle quantité de pluie n'a jamais été enregistrée à Sofara, plus de 200 mm. Donc, cela a fait quand même... aujourd'hui, le périmètre risicole que nous avons est inondé à 90%. Pratiquement, il y a eu des maisons également qui sont tombées. Il y a à peu près, dans la ville de Sofara, 1832 maisons touchées, dont 1492 effondrées.
Alors, quelles sont les causes de ces inondations chez vous à Sofara? Est-ce que les causes ont été détectées?
Bon, d'abord, premièrement, les premières causes que nous avons eu à détecter au niveau de notre association, c'est l'occupation des voies d'eau. Ça, c'est une première cause. Deuxième cause également. Vous savez, ce n'est pas une ville, mais c'est un gros village. Toutes les constructions sont en banco. Et donc, quand une maison est construite en banco et que l'eau vient inonder ça, ça va s'écrouler, c'est clair. Une deuxième cause, vous savez, les caniveaux qui drainent les eaux vers les autres localités sont occupés. C'est bouché. Donc nous avons constaté que les personnes qui sont à côté de ces caniveaux-là se sont permis quand même de mettre, de verser des ordures, de jeter des ordures dans ces caniveaux-là. Ça fait partie des choses qui ont fait que l'inondation est arrivée. Mais la première cause principale quand même, c'est la quantité de pluie tombée qui n'a jamais été enregistrée. Mais de nos jours, on est en train de voir également, pas seulement que cette quantité de pluie, mais nous constatons que le lit du fleuve est en train de s'élargir. Et aujourd'hui, l'eau est en train de rentrer dans le village même, qui à un certain niveau que nous-mêmes nous n'avons jamais vu. Donc, on est en train de crier au secours. Nous avons eu à prendre des premières dispositions d'abord.
On va en parler au cours de l'émission. Merci. D'ici là, nous allons redonner la parole à Khadija Kani. Khadija, et quelles sont les causes de ce changement climatique constaté ici dans la région de Mopti? Votre co-débatteur en a évoqué quelques-uns. Qu'est-ce que vous avez à ajouter?
Justement, pour un peu appuyer ce que mon prédécesseur a dit, puisque nous sommes en train de parler du changement climatique, moi je dirais que la première cause et même la cause principale même de ces inondations sont dues d'abord au changement climatique, les changements de température. C'est comme un cycle. Donc nous avons d'abord commencé par la forte chaleur. Cette forte chaleur-là, donc l'air qui monte en haut, donc elle est très humide. Ça augmente un peu l'accumulation de l'atmosphère en haut, donc ce qui peut aussi engendrer des fortes pluies. Et aussi cette terre-là qui est en haut, ça aussi ça peut se déplacer, parce que lorsque la pression, le poids est trop lourd, ça peut se déplacer de façon inégale. On constate aujourd'hui qu'il y a certaines zones souvent qui n'enregistraient pas, comme il avait bien dit, qui n'enregistrent pas autant de pluie. Et qu'aujourd'hui, ils ont une très forte pluie. Et vice-versa, il y a aussi des zones qui enregistraient, qui avaient habituellement enregistré des plus fortes pluies et qui n'enregistrent pas de fortes pluies aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des effets du changement climatique. Lorsqu'il y a la forte chaleur, il faut s'attendre aussi à une forte pluie. Ça, c'est un cycle naturel. Maintenant, je dirais aussi que c'est dû aux actions de l'homme. Il a parlé de l'élargissement du lit, du cours d'eau. Ça, c'est dû à l'ensemblement. Et cet ensemblement provient de quoi? La coupe abusive des arbres. Puisque lorsqu'il y a le vent, c'est les arbres qui permettent aussi de stopper un peu l'avancée du sable dans les cours d'eau. Donc nous sommes en train, on constate aujourd'hui qu'il y a une très forte pression sur les arbres. Il y a la coupe abusive des arbres, ce qui engendre aussi l'ensablement des cours d'eau, d'où l'élargissement des cours d'eau. Il y a aussi l'occupation des sols. Nous constatons aujourd'hui que c'est vrai, il y a l'urbanisation, la population qui augmente, il y a la population qui grandit. Donc les lits des cours d'eau sont occupés par endroits. Les canaux de drainage des cours d'eau, les gens utilisent aussi ça comme des dépôts d'ordures. Donc ce qui peut aussi causer, je peux dire ça, lorsque ces canaux-là sont
bouchés,
voilà, obstrués, donc ça peut provoquer aussi l'inondation, puisque l'eau n'a plus de passage. L'eau n'a plus de passage, donc tout ça, ça peut engendrer l'inondation. Donc je dirais en quelque sorte, il y a les effets naturels, qui est le changement climatique, et qui est aussi par conséquence dû aussi aux effets, disons aux actions anthropiques, l'action de l'homme. Voilà.
Et les caniveaux qui sont utilisés par des populations comme dépôt d'ordures.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'assainissement, un problème d'aménagement de la ville, un lieu où les populations n'ont pas de dépôt d'ordures, les populations n'ont pas d'endroit où accumuler les tas d'ordures? C'est un peu ce qui les pousse à, même si c'est un peu malheureux, de jeter les ordures dans les caniveaux. Est-ce que quelque part, les autorités aussi n'ont pas une part de responsabilité?
Bien évidemment, oui. Bien évidemment, je dirais que l'autorité a sa part à jouer, mais il faut aussi un changement de comportement à tous les niveaux. L'autorité, il y a l'autorité, je dirais que c'est nous. C'est nous-mêmes. Lorsqu'on n'est pas habitué à ce genre de comportement, à corriger ce genre de... C'est l'incivisme. Il y a beaucoup de canivets aussi. On a constaté que l'État a construit, a aménagé beaucoup d'endroits aussi. Les gens l'utilisent pour d'autres fins. Donc, il y a la part aussi de l'État, comme il y a la part de nous, les citoyens. On doit changer de comportement. Il faut une sensibilisation.
Avant d'en arriver aux solutions, nous allons donner la parole à Monsieur Maïga. Monsieur Maïga, et quelles sont les régions, les villes ou bien les villages, les lieux de rassemblement qui ont été beaucoup inondés ici dans la région de Mopti?
Les endroits qui ont été les plus inondés ici à Mopti, en tout cas, c'est comme mes prédécesseurs ont dit, c'est surtout les lits des fleuves. Les lits des fleuves, ça c'est... deuxièmement aussi, c'est les endroits où les caniveaux se rassemblent pour pouvoir évacuer les eaux.
Oui.
Donc à ce niveau aussi, puisque les eaux se sont retrouvées, beaucoup de quantités d'eau se sont retrouvées en même temps, en un seul lieu, donc ça a dû déborder, ça a atteint les lieux. Bon, et puis il y a les marchés aussi. Généralement ici, en tout cas à Sévaré-Mopti, les marchés sont des endroits qui n'ont pas été bien aménagés et qui aussi enregistrent... beaucoup de mouvements. Donc du coup avec la boue, quand il y a une petite quantité d'eau, donc l'eau a du mal à s'écouler, donc ça stagne, et puis avec les mouvements, les marches que les gens font dedans, donc ça devient de la boue et l'eau stagne, ça peut plus aller quoi.
On a parlé aussi de la disparition ou de la rareté de certaines espèces aquatiques et autres. Est-ce que vous avez des exemples palpables ici à Mopti, d'espèces aquatiques ou bien des arbres qui ont eu à disparaître sous les effets du changement climatique? Vous en avez des exemples?
Des exemples concrets pour vous citer des noms, je n'en ai pas tout de suite.
Des poissons qu'on ne retrouve plus dans le fleuve, vous en avez des exemples? Madame, vous en avez des espèces qu'on ne retrouve plus ici à Mopti sous les effets du changement climatique? Vous en connaissez? Ok. Alors, monsieur Sissé, vous avez parlé de champs inondés. Est-ce que ces inondations n'auront pas un impact sur le rendement, sur les récoltes cette année?
L'impact est très grand, madame. En réalité, là où on a un périmètre de 574 hectares, dont les 90% sont inondés, donc il n'y a pas espoir. Nous, aujourd'hui, nous n'avons aucun espoir pour sauver la campagne de cette année.
Pas d'espoir.
Pas d'espoir. Parce que ça fait plus d'une semaine, voire une dizaine de jours, mm-hmm. qu'ils sont en train de mettre tout en œuvre pour évacuer cette eau du périmètre. Malheureusement, on tire aujourd'hui, demain on vient de trouver que ce qu'on a tiré, c'est pratiquement le double qui est venu. Wow. Donc du coup, il n'y a pas espoir pour qu'on sauve la campagne de cette année. Sauf miracle.
Il s'agit uniquement des champs de riz ou bien des autres cultures aussi qui sont impactées?
Bon, nous, c'est vrai, nous sommes une zone qui cultive à la fois le riz et le mil. Mm-hmm. Mais les cultures, c'est-à-dire le mil, là, ça c'est généralement des champs qui sont sablonneux. Les champs qui sont sablonneux n'aiment pas beaucoup la pluie. Là aussi, il n'y a pas un grand espoir. Ça va jouer sur le rendement. Mais les champs rizicoles, là, l'espoir est très, très, très minime en réalité. Sauver la campagne de cette année, mm-hmm. vraiment, ce n'est pas... En tout cas, nous, on ne voit pas. Mais l'Éternel est puissant. Il peut nous trouver peut-être d'autres moyens pour sauver la campagne. Sinon, nous, on ne voit aucun moyen pour sauver la campagne.
Alors, Madame Khadija Kane, vous qui travaillez à la direction de l'hydraulique ici dans la région de Mopti, est-ce que vous avez eu à faire un bilan des inondations et des catastrophes qui ont eu dans la région pendant cet hivernage-là, en termes de maisons effondrées, en termes de bétail emporté ou bien de populations sinistrées?
Nous avons quelques informations, mm-hmm. sinon ces informations ne relèvent pas de notre département.
D'accord.
C'est le développement social qui gère ça. Mm-hmm. Mais on a quand même participé à des rencontres, mm-hmm. puisque l'hydraulique fait partie du comité de gestion mm-hmm. Des crises et catastrophes mm-hmm. dans la région. Donc à travers ces rencontres-là, on a quand même noté quelques informations qui diraient que, comme il a si bien dit, des périmètres sont inondés, les maisons sont tombées. Oui, mais en chiffres, je ne peux pas vraiment définir ça. Mm-hmm. Voilà.
On parle de la montée des eaux ici dans la région de Mopti. Mm. Mais quelle est la particularité de cette année? Habituellement, est-ce que la région ne connaissait pas cette montée des eaux, vu que Mopti est une zone où il y a assez d'eau habituellement? Et quelle est la particularité de cette année?
La particularité de cette année est surtout... toujours l'effet des changements climatiques mmh. qui augmente, qui va toujours en galop. Mmh. On a fait une comparaison tout dernièrement entre cette année et les années 1967. On a constaté que les niveaux enregistrés ces derniers trimestres-là, les niveaux enregistrés est toujours supérieur au niveau des années 1967, là où la région a connu une très forte inondation. Il y a aussi l'année 2022 et l'année 2018 où la région a enregistré d'inondations. Ce qui fait que la particularité de cette année est que les niveaux enregistrés à la même date sont toujours supérieurs au niveau enregistré pendant ces années antérieures là que je viens de citer. Mmh. Donc ça c'est une particularité qui peut aussi nous avertir que l'année 2024 sera peut-être une année exceptionnelle. Mmh. Mais il y a quelque chose à retenir. L'inondation dans une zone peut être due à deux facteurs. Il y a la montée des cours d'eau, ce qui n'est pas fortement lié à la quantité de pluie tombée mmh. sur la zone et dans la zone. Je parle particulièrement de la région de Mopti. L'inondation dont tu l'as parlé dans le sec de Djéné, à Sofara, pendant la première semaine du mois de septembre, on a enregistré une forte pluie dans la région de Banyangara. Et cette pluie qui a drainé vers une rivière qu'on appelle le Nyamé, qui est venue déborder au niveau de Sofara. Sinon, c'est pas. Il y a beaucoup d'inondations qui se provoquent dans une ville qui n'est pas fortement due, est liée à la quantité de pluie tombée sur cette ville-là. Donc, c'est ce que je tenais à clarifier. Donc, l'inondation qu'on va enregistrer dans la région de Mopti, même si la montée des cours d'eau, on constate que ça, un moment en moyenne, on avait enregistré une montée de 2 à 3 cm par jour. Mais il était venu à un moment, c'était à millimètres. Ça, c'est tout dernièrement. On constate que la montée, ça va petit à petit. Oui, mais ça, c'est dû au barrage, les lâchers en amont, au niveau des autres barrages, qui peuvent aussi provoquer l'inondation en aval, d'où la région de Mopti. Comme il a si bien dit, ainsi que la quantité de pluie aussi qui peut tomber dans la zone. Donc, l'inondation n'est pas forcément liée à la quantité de pluie tombée, mais ça peut être dans une autre zone et qui sera drainée vers la localité inondée.
Alors, M. Maïga, vous qui êtes membre d'une organisation de la société civile, est-ce que les populations ont conscience qu'ils ont un impact ou bien qu'ils sont quelque part la cause de ce changement climatique-là, ici dans la région de Mopti?
Ok, merci beaucoup. Absolument, moi je pense que les populations sont tout à fait conscientes de leur rôle dans ce changement climatique.
Comment? Est-ce qu'ils le manifestent? Qu'est-ce qui prouve qu'ils savent que quelque part, eux aussi, ils sont la cause de ce changement climatique?
Oui, parce que les effets sont directement ressentis par les populations. Mmh. Non seulement on avait parlé de comparaison par rapport aux années précédentes, et aussi actuellement, quand vous voyez les quantités de récoltes ou bien les quantités d'aliments disponibles par rapport aux années passées, on voit que nettement, ça a beaucoup changé. Même les cultures, avant les cultures, la production que ça pouvait donner, ça a beaucoup changé. Et les gens savent que c'est directement lié aux effets du changement climatique. Avant, il y avait des quantités très, très abondantes. Et on voit que les ressources se raréfient. Ça, c'est un constat que tout le monde sait que c'est dû à la surexploitation. Mm-hmm. C'est clair.
Mais est-ce que les populations ont conscience qu'il faut changer de comportement et d'attitude pour pouvoir minimiser un peu les effets de ce changement climatique-là?
Absolument, absolument. Les populations ont conscience elles-mêmes, non seulement parce que avec les mesures mises en place par les autorités, non seulement étatiques, mais aussi les ONG, il y a des comités villageois ou en tout cas communautaires qui surveillent ces pratiques-là. Et on sait que par rapport aux pratiques des populations, donc vraiment ça joue beaucoup sur les ressources. Bon, souvent peut-être que les gens se disent qu'ils n'ont pas souvent trop le choix, vu que les denrées sont rares. Donc c'est ce qu'ils ont sous la main qu'ils exploitent. Bon, je pense que c'est dû aussi à la population galopante par rapport à la production et par rapport à la disponibilité des ressources, malheureusement.
Alors, M. Sekou, si c'est vous qui venez en aide aux populations sinistrées et à Sofara, et depuis le début de cette situation, quelles sont les aides que vous avez eues à apporter aux populations sinistrées?
D'accord. Par rapport aux aides, premièrement, le jour J, même le jour où même cette pluie s'est abattue sur le village, nous sommes sortis en groupe pour quand même aller aider les uns et les autres. Mmh. Donc nous avons eu à faire une grande mobilisation par rapport à cela. Heureusement, c'est vrai, toute vie est chère, mais en matière de perte en vie humaine, on a pu minimiser les dégâts. Il n'y a eu qu'une seule perte en vie humaine. Donc après ça, il y a eu automatiquement, on a essayé de faire une autre mobilisation pour mobiliser quelques fonds, parce que l'inondation a provoqué autre chose également, après l'effondrement des maisons, mais aussi les céréales qui se trouvaient peut-être dans les greniers, dans les magasins, se sont retrouvés dans l'eau. Celui qui avait peut-être 10 sacs s'est retrouvé avec 3 sacs. Donc là, ça veut dire que ça fait appel à la famine directement. Mm-hmm. Donc nous sommes mobilisés pour secourir les gens, pour les aider à sortir de cette difficulté, d'abord par rapport à l'effondrement des maisons, mais après également, on a pu quand même mobiliser quelques fonds selon nos moyens. Nous avons fait des cotisations, tout, pour trouver quelques sommes et acheter du riz et de l'huile pour donner aux sinistrés, afin qu'ils puissent quand même trouver quelque chose à mettre sous les dents avant qu'on puisse trouver autre chose encore. Mm-hmm. Les mobilisations sont en cours et il y a également des ONG qui sont venues, mais ces ONG-là sont venues d'abord pour enregistrer les personnes sinistrées, Parce que d'abord, c'est le développement social qui est venu. Mm-hmm. C'est ce qui m'a même permis de donner le chiffre que je viens de donner tout de suite par rapport aux maisons effondrées et touchées. Donc, et ils ont fait un premier enregistrement. Donc maintenant, après, il y a la Croix-Rouge également qui a fait... La Croix-Rouge et le développement social, on travaille ensemble pour recenser toutes ces personnes-là, toutes ces familles. Maintenant, il y a NRC qui est venu, une ONG qui est venue quand même enregistrer également les gens. Donc, ils nous ont pas... On comprend qu'ils sont venus pour... Ils sont venus enregistrer les gens pour amener de l'aide. Mais depuis l'inondation jusqu'à nos jours, on n'a pas enregistré, on n'a pas vu une aide qui est venue de, peut-être de l'État ou encore de quelqu'un d'autre pour quand même appuyer ces populations. Mais seulement ce que nous, notre association, c'est-à-dire les ressortissants de la commune de Fakala, les ressortissants du village de Sofara, se sont mobilisés, ce qu'ils ont pu avoir, c'est ce qu'on a pu donner aux uns et aux autres.
Donc, est-ce que ces populations ont pu être relogées ou bien ils sont installés dans les écoles?
Il y a de ces populations qui... Une grande partie est dans les écoles. Et il y a d'autres également qui sont allés sur d'autres sites avec beaucoup de difficultés. Parce que là où deux ou trois personnes dormaient dans une chambre, s'ils dorment à 6-7, donc là, ça veut dire qu'ils dorment avec beaucoup de difficultés. Il y a certains qui ont pu être relogés quand même. D'autres sont dans les écoles jusqu'à présent. Jusque là où je vous parle, les écoles sont vraiment occupé par ces gens-là.
Alors, Madame Khadija, et parlant de changement climatique, vous avez aussi évoqué le comportement des humains qui en serait la cause. Et est-ce qu'ici, dans la région de Mopti, ceux qui vivent de la forêt, de la coupe des bois et autres activités forestières savent que leur activité a un impact sur le climat, sur le dérèglement climatique?
Bien évidemment.
Ils le savent.
Je pense qu'à l'ère où nous sommes, vu les effets qui tapent à l'œil, nous sommes tous conscients aujourd'hui que d'une part à une autre, on contribue aux effets du changement climatique. Mais comme M. Maïga l'a si bien dit, les gens souvent ils se disent qu'on n'a pas le choix. On vit de ça. Sinon, l'État aussi avait pris des mesures par rapport à ça. Il y a eu des sensibilisations, mais les gens continuent à le faire. Ils continuent toujours à le faire. Sinon, je pense que chacun est conscient de cela. Mais comme un adage bamara le dit, les gens ont l'habitude de le dire, « Mokoti balofem bla, il fera fin. » Donc, c'est ce qui fait que les gens continuent toujours à mener ces pratiques-là, même si ce n'est pas au même degré, et ils continuent toujours à le faire.
Alors, comment accroître la résilience des communautés face aux effets du changement climatique? On sait que le phénomène est là. Comment est-ce que les populations peuvent s'adapter au changement climatique et minimiser aussi les effets? La question s'adresse toujours à vous, madame.
Oui, je suis en train un peu de réfléchir à la question. Pour accroître la résilience de la population, il faut aussi l'aide, l'appui. Bien vrai qu'on a l'appui des ONG humanitaires ici qui contribuent beaucoup, beaucoup, beaucoup même à la résilience communautaire, qui appuient beaucoup la communauté par rapport à la résilience. Il faut aussi, l'État aussi faire de son mieux. Maintenant, ce qu'il s'agit de la communauté elle-même, il faut changer de comportement. Il faut changer de comportement face à la période, à l'effet que nous constatons. Et je vais prendre juste un exemple. Lorsque nous constatons une inondation dans une zone et que nous-mêmes nous sommes conscients que c'est l'eau tombée, disons la quantité de pluie tombée sur la zone n'a pas eu de chemin et qui s'est propagée dans nos concessions. Ça veut dire que quelque part, c'est ce voie de passage de l'eau qui est occupée. Pourquoi ne pas faire des sensibilisations? Pourquoi les chefs de village ne peuvent pas prendre des mesures pour inviter les gens à ne pas construire dans ces voies de drainage des cours d'eau? Aussi, et les caniveaux qui sont dans les villages, peut-être certains villages n'en ont pas. Il y a d'autres ouvrages, les ponts, qui contribue aussi au drainage des cours d'eau. Pourquoi ne pas demander à la population de faire le curage, fréquemment de faire le curage de ces caniveaux-là, éviter de telle sorte que les ponts, les ponts-là ne soient pas endommagés, surtout à l'approche des pluies. Aussi, les maisons effondrées, puisque la plupart des maisons ici dans la région de Mopti sont à Banco. À l'approche de l'hivernage, pourquoi ne pas mobiliser les gens pour rebâtir ces maisons-là qui peuvent un peu leur donner un peu de force pour supporter les effets de la pluie qui tombera. Il y a aussi, je voulais parler de... Oui, on parle des effets des actions anthropiques. Et au niveau rural, urbain plutôt, au niveau urbain, nous avons constaté dans le marché, les gens, il y a beaucoup d'inondations dans les marchés, puisqu'il n'y a pas de voie de drainage. Donc, ceux qui ont fait appel à l'autorité aussi d'aménager les marchés comme il le faut. Aussi, appeler les gens à dégager les bords des rivières, c'est-à-dire que les villages ou les hameaux qui sont autour des cours d'eau, les villages riverains, de se déplacer à l'approche de l'hivernage, qu'ils se déplacent et que l'État leur montre un endroit là où ils peuvent se loger, là, juste le temps de l'hivernage. Mm-hmm. Tout ça, ça peut atténuer les effets, les conséquences de l'inondation dans la région. Mm-hmm. Voilà, donc il y a souvent des actions, des sensibilisations, des messages qui passent, mais il n'y a pas d'action qui est posée. Mm-hmm. Le message est toujours passé, mais il n'y a pas d'action qui est posée. Voilà.
Alors, Monsieur Maïga, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les populations face aux effets du changement climatique ici à Mopti?
Oui, merci beaucoup, madame, pour cette question. Je pense qu'on a parlé suffisamment des conséquences des changements climatiques. Mm-hmm. Donc maintenant, en tant que population, qu'est-ce que nous devons faire pour atténuer ces effets? Mm-hmm. Donc, en tout cas, c'est vraiment la sensibilisation, les informations et puis aussi des démarches au niveau des autorités pour qu'ils apportent leur appui qu'ils peuvent pour que les populations se rendent compte réellement de ces effets du changement climatique et voir les solutions qui sont possibles et que la population puisse les adapter dans leur pratique quotidienne.
Beaucoup ne font pas le lien entre changement climatique, la pauvreté et autres difficultés économiques auxquelles les populations peuvent faire face, mais c'est savoir que c'est lié un peu au changement climatique, beaucoup l'ignorent. Est-ce que vous, à votre niveau, il vous arrive de sensibiliser les populations sur cette voie, leur dire que il y a un changement climatique, mais si vous ne faites pas attention, ça peut accroître la pauvreté, ça peut vous impacter sur plusieurs autres voies auxquelles vous n'êtes pas préparé. Est-ce que ça vous arrive aussi de parler ainsi à aux communautés?
Ah oui, je pense que dans la communication qui passe, il y a ces aspects qui apparaissent, hein. Mm-hmm. Changement climatique et pauvreté, il y a vraiment un lien intrinsèque. Il y a un lien intrinsèque parce que, pauvreté, mais aussi le mode de vie, quoi. Mm-hmm. Le mode de vie que nous avons adopté pendant des millénaires et que jusque-là, nous n'avons pas pu beaucoup changer. Mm-hmm. Par rapport à ça. Parce qu'avant, les ressources étaient abondantes, il y avait peu de gens autour des communautés. Mais on a vu que maintenant, les populations sont devenues nombreuses et les ressources sont devenues rares. Mm-hmm. Donc avant, vous allez voir qu'au bord, les gens cultivaient juste aux abords des villages. Les gens ne partaient pas loin. Mais de plus en plus, les gens vont plus loin pour aller cultiver les champs. Les champs sont de plus en plus grands parce que tout simplement, les ressources sont devenues rares et qu'il faut vraiment exploiter, souvent surexploiter les ressources qui existent. Mm-hmm. Donc ce qui va amener une raréfaction, même souvent les extinctions de certains produits. Mm-hmm.
Voilà. Alors, Monsieur Sekou Cissé, maintenant, après ces inondations, après ces catastrophes naturelles au niveau de Sofara, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les populations ont repris conscience face aux effets du changement climatique dans votre localité?
Oui, je peux dire que les populations ont pris conscience des conséquences du changement climatique parce que les uns et les autres ont compris quand même que aujourd'hui la situation qui prévaut n'est rien d'autre que d'abord les conséquences de ce changement climatique et également de leur propre comportement. Pourquoi ? Parce que si l'eau n'arrive pas à être drainée pour aller là où elle doit aller normalement, si on se permet de fermer, de boucher, d'obstruer toutes les voies de ruissellement d'eau, on a compris aujourd'hui que ces inondations sont le résultat de notre propre comportement, premièrement. Deuxièmement, on a compris également que ces fortes pluies étant le résultat du changement climatique, nous avons compris, nous nous sommes posé quelques questions. Alors, qu'est-ce que a provoqué ça? Nous avons vu notre comportement qui fait partie des causes. D'abord, ce que nous faisons en ville, mais ce que nous faisons également en campagne. En campagne, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire dans nos champs. C'est vrai, il y a cet aspect démographique qui est là. La population devient de plus en plus galopante. Les maisons sont en train d'être construites à tort et à travers. Et tout ça, c'est pour nous trouver des abris. Mais ce que nous sommes en train de pousser les champs et construire sur ces champs-là, parce que nous cherchons des abris. Mais dans ce cas-là, on se permet de couper pratiquement tout ce qu'on a comme arbre dans le champ. Au lieu de les garder, les entretenir, nous nous sommes adonnés à la coupe de ces arbres-là, qu'on aurait pu laisser entretenir, qui contribuerait quand même à stopper l'avancée du désert. Mais nous n'avions pas compris ça. C'est aujourd'hui que nous avons compris que hier, nos arrière-grands-parents vivaient paisiblement avec telle ou telle chose comme ressources, que ce soit financier ou encore que ce soit des ressources céréalières. On a compris aujourd'hui qu'on n'a pas ça parce que nous, notre comportement a fait que nous avons détruit tout ce que nous avions autour de nous. Nous avons détruit notre propre environnement. Maintenant, la conscience, elle est venue. Si la conscience, elle est réellement venue, nous devrions changer de comportement. Et ce changement de comportement ne peut arriver que lorsque nous conjuguons tous nos efforts et qu'on parle tous dans le même, on parle tous le même langage et qu'on se sensibilise, qu'on accepte également d'appliquer ces messages de sensibilisation qui nous ont été livrés ou encore donnés par des personnes qui sont encore plus qui ont plus de connaissances et plus de capacité d'analyse plus que nous.
Vous avez parlé des causes qui sont des causes du changement climatique liées à l'homme, le fait que dans votre localité il y a une coupe abusive des bois. Mais est-ce que les populations aussi savent que l'utilisation d'intrants et de pesticides d'une façon pas contrôlée peut aussi impacter le sol et par conséquent impacter le changement climatique, amener le changement climatique? Est-ce que les populations ont cette information-là?
Oui, les populations ont cette information. Pourquoi? Parce que, ne serait-ce que dans les débats, j'entends parler certains, l'utilisation abusive de l'engrais chimique détruit parfois pas seulement le sol.
Même les eaux de ruissellement.
Les céréales même, pour lesquelles on est en train de les mettre, pour les avoir abondamment. Il y a de ces gens qui trouvent également que c'est-à-dire que les cultures qui n'ont pas reçu d'engrais chimiques sont plus agréables, plus délicieuses que les cultures qui ont reçu d'engrais chimiques. Donc là, ça veut dire qu'ils sont conscients que l'utilisation de ces engrais chimiques, de ces produits chimiques pour rendre abondant le rendement est très grave. Et par rapport même à la terre, donc là,
on n'a pas conscience de cela d'abord. Et je sais qu'au fil du temps, les uns et les autres comprendront. Quand je dis on n'a pas conscience, le nombre de personnes qui le sait est très minime par rapport aux gens qui ne le savent pas. Donc quand c'est une minorité qui le sait et que la majorité ne le sait pas, moi je vais dire que la conscience, elle n'est pas venue d'abord. Donc c'est ce que j'ai comme élément de réponse.
Le décor, il est particulier. Nous sommes dans la région de Mopti, dans une rue, pour pouvoir animer cette émission. Alors, Madame Khadija et Kane, nous avons parlé tantôt de l'utilisation abusive des pesticides et des intrants dans les champs. Est-ce que les populations, comme j'ai eu à poser la question à votre co-débatteur, est-ce que les populations sont conscientes des dangers auxquels ils s'exposent en utilisant abusivement ces produits qu'on peut dire nocifs pour la santé et pour le sol?
Bon, moi, je dirais que si vous me demandez, vous me permettez d'évaluer la prise de conscience de la population, moi, je vais l'évaluer à 15%. À 15%. Puisque la coupe, disons, l'utilisation abusive des engrais là peuvent aussi amener des problèmes de santé publique. Lorsqu'il y a une forte pluie, et il y a le lessivage des sols qui peuvent aussi amener tous les polluants dans nos cours d'eau. Et ces cours d'eau qui sont utilisés, surtout au milieu rural, dans les milieux ruraux qui sont utilisés pour les usages domestiques, autre chose. Donc ça peut amener un problème de santé publique. Nous avons tantôt constaté, à chaque fois qu'il y a l'inondation, il y a des problèmes d'assainissement. Pourquoi? Puisque l'utilisation même du sol, les déchets, la défécation à l'air libre, les populations sinistrées même savent qu'ils ont besoin d'un appui. Un appui par rapport à la santé, un appui par rapport à l'assainissement. Donc ça veut dire que, d'une manière, ils savent bien que c'est leur action qui conduit à ce désagrément-là. Mais c'est la prise de conscience qui cause problème.
Mais est-ce qu'ils savent aussi que ces produits peuvent aussi finir dans nos fleuves et dans nos différents cours d'eau et affecter aussi les poissons et autres, la vie même aquatique?
C'est ce que je viens
Est-ce qu'ils
dire.
Le savent?
Je dirais qu'ils le savent. Parce qu'il y a eu beaucoup de communication par rapport à ça. Peut-être que le message n'est pas véhiculé à hauteur de souhait, mais il y a eu beaucoup de communication et beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. Donc, d'une part, moi je dirais que la conscience n'est pas à hauteur de souhait, mais l'information est là et tout le monde sait aujourd'hui que c'est dû à nos actions qui amènent souvent des problèmes de qualité de nos eaux qui conduisent à des problèmes de santé publique aussi.
Est-ce qu'il faut une réalisation des infrastructures hydrauliques aussi pour minimiser les effets du changement climatique? Par exemple, plus de barrages, plus d'aménagements pour pouvoir un peu minimiser les effets du changement climatique.
Effectivement, effectivement. Surtout dans nos communes, dans certains, je ne parle pas de la ville de Mopti, sinon même ici à Sévaré. À Sévaré, comme la ville de Sévaré est en chantier maintenant, sinon il n'y a pas assez de voies de drainage des eaux pluviales, il n'y a pas assez de canaux de drainage des eaux de pluie. Et de même aussi dans les villages. Les villages, je dirais qu'il n'y a même pas de canaux de drainage. À part les programmes nationaux, les ponts, les routes, les barrages. Mais c'est souvent avec l'appui des ONG humanitaires qu'il y a aussi certaines réalisations comme les digues de protection, les petits barrages hydro. Bon, il n'y a pas assez de grands barrages, mais l'État doit quand même faire des efforts par rapport à cela. Il y a bien vrai qu'on a les effets anthropiques, mais l'appui de l'État sert aussi de faire des ouvrages qui peuvent un peu atténuer les effets néfastes du changement climatique.
Alors, Monsieur Maïga, de quoi est-ce que les populations ont besoin actuellement pour pouvoir minimiser un peu l'effet du changement climatique, selon vous, dans la région de Mopti?
Merci beaucoup, Mariam. Bon, de mon avis, en tout cas, les populations ont besoin de beaucoup d'informations, quoi. En tout cas, il y a de l'information, mais il faut en tout cas intensifier cette information, cette sensibilisation au niveau des populations Et réellement, par rapport au vécu, tout le monde a vécu les effets de ce changement. Je pense qu'il faut carrément les faire comprendre que c'est dû à souvent, pas tout le temps, mais souvent aussi à nos comportements, et que seul le changement de comportement peut nous amener à quitter cela. Mais je pense qu'aussi, il faut que les autorités aussi s'assument, quoi. Souvent, il y a des normes qui sont là, des principes, mais en tout cas, chacun voit ce qu'il peut y gagner tout de suite. Quand vous voyez que les gens utilisent abusivement l'engrais, c'est pour tous avoir beaucoup de produits et les écouler sur le marché, et peut-être qu'eux-mêmes, ils ne les consomment pas. Mais donc, je pense que c'est les autorités qui doivent être plus vigilants et appeler ces gens-là à respecter les normes.
Alors, pour terminer, M. Cissé, de quoi est-ce que les populations de Sofara ont besoin actuellement? De plus de sensibilisation, de plus de moyens ou bien de plus d'infrastructures pour pouvoir minimiser ou bien mettre fin aux effets du changement climatique dans votre localité?
D'emblée, je vais dire les trois.
N'est-ce pas?
Nous avons besoin de trois. Mm-hmm. D'abord, nous avons besoin de sensibilisation.
Oui.
Les uns et les autres pour qu'on puisse changer de comportement.
Mm-hmm.
Et nous avons besoin également de moyens pour pouvoir faire face à ces conséquences du changement climatique. Et nous avons besoin également de l'appui, que ce soit de l'État ou encore d'autres partenaires,
mm-hmm.
pour nous permettre de nous en sortir de ce gouffre en réalité.
C'est la fin de cette émission. Le thème portait sur comment accroître la résilience des communautés face aux effets du changement climatique amorti. Nos invités étaient Abdulkarim Maïga, il est membre du conseil régional de la société civile de la région de Mopti. Khadija Kané, elle travaille à la direction régionale de l'hydraulique. Notre troisième invité est M. Sekou Cissé, il est membre de l'association de gestion des catastrophes et des inondations à Sofara. Je suis Mariam Koulibaly. La partie technique était gérée par Mamadou Ouattara et Ibrahim Sanogo. Merci et à demain, Inch'Allah.